BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Le Club BFM Crypto. Nous allons cette fois répondre à vos questions, comme toutes les semaines, entre 15h et 15h30, avec Charles Guillemet, CTO chez Ledger. Bonjour Charles.
Bonjour et ravi de vous accueillir dans les locaux de Ledger.
J'allais dire, on est en plein cœur de Paris, en plein cœur du Marais pour cette émission spéciale. Donc on va parler évidemment forcément de self-custody, de device, mais aussi d'intelligence artificielle, de quantique et de toutes les questions aussi que vous nous avez posées. Parce qu'il y a aussi Morgane Elandu. Bonjour Morgane.
Bonjour Sandra.
Fondatrice de Crypto 360 qui est avec nous toutes les semaines pour répondre à vos questions. Vous savez que vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur les cryptos, sur les actifs numériques à cette adresse crypto. @bfmbusiness.fr. La première question est pour vous, Charles. C'est Lola et qui vous demande si je perds mon Ledger, est-ce que je perds mes crypto-monnaies ?
C'est une très bonne question. Alors, quand on possède des bitcoins, ils se trouvent pas à l'intérieur du device Ledger, ils se trouvent sur la blockchain. Et en fait, ce qui va nous rendre possesseurs de ces bitcoins, c'est le fait qu'on connaît la clé privée qui nous permet de débloquer nos bitcoins. Et la clé privée, elle est effectivement stockée à l'intérieur de ce device. Mais quand on l'initialise au début, le device, il va générer le secret. Et ça va être le moment, en tant qu'utilisateur, où on va créer un backup de ce secret. Et donc, il y a différentes manières de faire des backups. La manière la plus normale et basique, c'est de décrire les 24 mots sur un bout de papier. On fournit les bouts de papier exprès pour ça. Et c'est bien d'en avoir plusieurs versions, histoire de les stocker à différents endroits. Sur les nouveaux devices comme cela, on offre aussi une security key. C'est une petite carte NFC qu'on va pouvoir taper à l'extérieur du device pour pouvoir stocker le secret sur cette clé de backup. Et on a aussi un troisième service qui s'appelle Ledger Recover, qui permet de associer ces 24 mots à notre identité. Et donc, la clé privée va être coupée en trois morceaux et envoyée sur Internet de manière sécurisée à des tiers qui vont la stocker, de sorte qu'on, le jour où on a besoin de les retrouver l'accès à ces cryptos, on a juste à s'authentifier à ce service et on retrouve l'accès.
Donc, pas de panique pour Lola.
Pas de panique.
Tout a été prévu.
C'était prévu et plusieurs options même.
Merci beaucoup, Charles. Une question à présent. Je vais passer à la question de Jérôme. Pour vous, Morgane, on entend beaucoup parler du DCA que je pratique moi-même depuis un an à raison de 40€ par mois. En revanche, j'ai récemment découvert le VCA, stratégie dont on parle beaucoup moins. Alors, la première question de Jérôme, c'est quel est votre avis sur ce sujet, Morgane ?
Tout à fait. On parle souvent du DCA, le Dollar Cost Averaging, et il existe le VCA, donc la Value Cost Averaging. Et en fait, c'est deux stratégies qui sont très différentes, puisque dans un premier cas, je vais investir toujours la même somme par fréquence d'achat sur un seul actif, c'est le DCA. Alors que le VCA, sa particularité, eh bien, c'est qu'en fait, on va varier le montant que l'on va investir à chaque fois. Comment est-ce qu'on va faire ce calcul ? En fait, on va partir du montant cible que l'on veut mettre à chaque fois et on va regarder la performance de l'actif. En l'occurrence, ici, la question était sur Bitcoin. Donc, est-ce que Bitcoin a pris de la valeur ? Dans ce cas-là, on va peut-être investir un petit peu moins, et s'il a augmenté en valeur, on va en fait ajuster à chaque fois. Donc c'est vraiment la différence entre le montant que j'avais prévu d'investir et comment est-ce que l'actif s'est comporté. Et ça, c'est le VCA. Alors, certaines personnes vont dire que le VCA, c'est un espèce de DCA boosté avec un meilleur rendement. Ça dépend, en fait, de manière générale, il n'y a pas une réponse universelle ici. Moi, c'est ce que je dirais. Ça dépend de votre profil d'investisseur. Socrate disait, connais-toi toi-même. Et bien, en investissement, c'est exactement pareil. Vous devez vous connaître parce que certaines personnes vont peut-être apprécier le fait qu'on peut automatiser en 5 minutes tous nos achats sur un an dans le cadre du DCA, alors que certaines personnes vont peut-être apprécier le fait de devoir calculer à chaque fois quel est le montant que je vais investir. Donc ça demande une veille un petit peu plus active, ça demande aussi un petit peu plus d'effort. Donc là, ça va vraiment dépendre du profil d'investisseur, je dirais, de la personne.
Se connaître en tant qu'investisseur, vous le dites souvent effectivement, et savoir si on veut être tranquille finalement, laisser passer et faire les choses, ou surveiller un petit peu. Et il continue, du coup Jérôme, il dit, j'ai décidé de tester cette approche du VCA, mon idée est la suivante: lorsque le montant investi certains mois est inférieur à la somme que j'allouais habituellement au Bitcoin, je place la différence en stablecoin afin de constituer une réserve pour les périodes où le VCA m'amènera à investir davantage. Est-ce que vous pensez que cette stratégie est pertinente sur le long terme, du coup, Morgane?
Oui, effectivement. En fait, si l'actif augmente et qu'on met un petit peu moins avec le VCA et inversement, ça peut être pertinent potentiellement de passer en stablecoin plutôt que de faire un achat directement en euros. Mais de nouveau, ça va dépendre. Est-ce qu'il y a une utilité réelle finalement? Parce que dans un cas, j'ai une seule opération, alors que dans l'autre cas, eh bien, j'ai deux opérations. J'ai déjà un achat et ensuite, j'ai une conversion. Donc au niveau des frais, il faudrait quand même vérifier que ça a du sens. Et puis, quel stablecoin? C'est surtout ça la question. Je tiens à rappeler qu'on a des stablecoins qui se sont dépégués, qui ont été complètement à zéro, notamment les stablecoins algorithmiques. Ensuite, on a les stablecoins, par exemple, qui sont MiCA compliant, comme l'USDC avec Circle derrière. Et puis, on a des stablecoins qui sont liés avec le cours de l'or. Donc là, ça fluctue.
Là aussi, il faut choisir. Là aussi, il faut une stratégie.
Exactement. Moi, je dirais que ça dépend de l'utilité qu'on en retire. Est-ce qu'on veut sortir le plus vite possible du monde bancaire? Est-ce qu'on veut le plus possible sortir de l'euro pour être sur la blockchain? Dans ce cas-là, oui, c'est pertinent. Donc, mon utilité, mais aussi le choix du stablecoin va rentrer pour moi en ligne de compte ici.
Voilà pour cette réponse très complète à Jérôme. Vous pouvez continuer à nous écrire et à nous présenter vos stratégies. On vous dira si c'est une bonne idée. Effectivement, notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Il y a Victoire qui vous demande, Charles, Ledger sert-il uniquement à sécuriser des actifs digitaux? Et ça, c'est une vaste question aujourd'hui, Charles.
Donc Ledger, l'entreprise, on vend des devices, donc comme j'en ai un ici, dans lequel on peut effectivement sécuriser des cryptos, mais tout un tas d'assets digitaux, comme son identité, ses accès d'authentification pour différents sites. Et une autre chose qu'on peut dire, c'est que au-delà de conserver et stocker, on peut utiliser ces cryptos et le device vient avec un software qui s'appelle Ledger Wallet, qui est disponible à la fois sur ordinateur et téléphone, sur tous les OS qui existent, et qui va permettre de à la fois gérer ces cryptos. On peut envoyer, recevoir, mais on va pouvoir aussi en acheter, en vendre, pour ceux vraiment qui veulent vendre des cryptos, en swapper, faire du staking, avoir une carte bancaire sur laquelle on peut vendre ces cryptos. Et ça, c'est tout un tas de services qui sont aussi offerts par Ledger. Donc on peut effectivement conserver si on a une vision long terme et qu'on veut investir dans Bitcoin sur le long terme. Mais on peut aussi utiliser tous ces services-là et interagir avec des protocoles DeFi, par exemple.
On va un tout petit peu dévier de cette question, parce que là, vous dites effectivement ce qui est en train de se passer sur le développement spécifiquement de ces devices. Mais Ledger va plus loin. Aujourd'hui, vous avez changé de stratégie. En tout cas, vous en ajoutez une, vous ajoutez des cordes à votre arc, et notamment vous travaillez sur le développement de l'IA, sur la sécurisation des données notamment. Est-ce que vous pouvez un petit peu rapidement nous expliquer ce que vous avez derrière la tête?
Alors, on n'a pas vraiment changé de stratégie. Ledger a toujours été une entreprise de sécurité avec un système d'exploitation qui permet d'adresser tout un tas de cas d'usage. La crypto, c'est un cas d'usage qui s'y prête très bien parce qu'il y a beaucoup de valeur qui, dans les yeux des gens, a beaucoup d'importance, effectivement, puisque c'est directement une valeur monétaire. Mais en fait, on peut adresser tout un tas de cas d'usage pour lesquels la sécurité est un enjeu. Et typiquement, adresser le cas d'usage dit de l'identité, genre porter son identité, être capable de prouver qu'on est celui qu'on prétend de manière vérifiable. Ça, c'est un cas d'usage qui est aujourd'hui important et qui va le devenir encore plus dans le futur, notamment avec l'IA. L'IA qui va créer tout un tas d'agents et de bots qui vont être capables qui vont tenter de se faire passer pour nous. Donc si on est capable de prouver que à la fois on est humain et à la fois on est celui qu'on prétend être, c'est un débloqueur pour la suite, parce que comme je viens de dire, je crois que c'était la semaine dernière, le trafic sur internet était supérieur des bots que des humains. Donc en fait on est déjà dans un monde où il y a des bots et des agents partout. Donc distinguer les bots et les humains, c'est un sujet qui va devenir de plus en plus important.
En fait, notre hygiène numérique, pour le moment, on subit un peu notre vie numérique. On fait ça en fonction de nos achats, on fait ça en fonction de nos rapports avec notre banque. Ce que vous nous dites quand même, c'est que il va falloir à un moment prendre les choses en main individuellement et se doter techniquement des bons outils, justement pour ne pas se faire attaquer en permanence par ces agents.
Exactement. Ça vient en même temps du fait que l'intelligence artificielle Et donc c'est une incroyable technologie, mais ça permet aussi aux attaquants d'être beaucoup plus effectifs, dans le sens où on peut trouver des vulnérabilités beaucoup plus facilement. Là aujourd'hui, il y a juste à demander à Claude ou n'importe quel IA assez orienté code de trouver une vulnérabilité sur un service. Et elle va en trouver une assez rapidement. Là, on est vraiment dans un moment où faire la transition pour améliorer la sécurité de tous ces services devient très difficile et urgent. Et nous, à Ledger, c'est vraiment ce qu'on fournit. On fournit des infrastructures de sécurité et d'abord pour les individus, des devices qui leur permettent d'ancrer toute la sécurité de ce qui est important pour eux.
Il va falloir devenir finalement de plus en plus responsable de ses données et de sa façon de faire.
Exactement.
Question de Michel pour vous, Morgane. J'ai un compte Revolut avec un IBAN commençant par FR76, donc normalement je ne dois pas le déclarer au fisc. Sauf que j'ai lu récemment que lorsque le siège social de l'entreprise se trouve à l'étranger et Revolut a son siège social en Lituanie, la déclaration au fisc est obligatoire, même en cas d'IBAN en France. Qu'en est-il exactement ? C'est une question pour cette année, c'est une question pour toutes les années, parce que ça, de toute façon, il faut le savoir, Morgane.
Oui. Alors, en fait, ce qui va déclencher l'obligation de déclaration, ça va être où est localisé le compte. Ce n'est pas où se retrouve le siège social du groupe. Ce qui va être pris en compte par l'administration, c'est effectivement l'IBAN, c'est un des critères. Ici, en l'occurrence, eh bien, Revolut, ils ont une succursale française qui est agréée par l'ACPR, et donc ils ont un compte de paiement FR qui va être traité comme un compte classique français. Pas d'obligation de déclaration. Attention, prudence à un élément. Si pendant l'année, le compte bancaire était encore en Lituanie, avant le basculement sur la France, eh bien là, vous devez quand même le déclarer. Vous allez le déclarer pour la période qui est concernée et vous allez le mettre comme un compte clôturé. Mais attention, et c'est là où il y a toute la subtilité dans cette question, je ne dois pas déclarer mon compte de paiement Revolut, mais je dois déclarer mon compte crypto Revolut.
Eh oui.
Parce que là, ce sont des entités qui sont justement à l'étranger qui vont gérer ces comptes-là, à Chypre, si je ne me trompe pas, sur Revolut pour les cryptos. Et donc là, il y a une obligation de déclarer dans le formulaire 3916 bis. Donc, notre auditeur a raison, mais c'était pour le compte de paiement.
J'ai entendu ça aussi pour Coinbase, hein, comme quoi il y avait un siège social en France, il y avait des bureaux en France. Donc non, c'était pas du tout une boîte étrangère. Si, quoi qu'il arrive, dans le doute, posez la question, ne faites pas l'autruche, parce que vous savez très bien que la fiscalité, ça vous rattrape, surtout justement à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc Morgane, on joue pas à ça. Hein. Une question de Vincent qui nous pose pour vous, Charles. Pourquoi conserver ses cryptos sur un hardware wallet comme Ledger plutôt que sur une plateforme d'échange ? On l'a dit hein, dans l'émission de lundi, les Français n'ont pas encore ce réflexe en majorité d'aller conserver eux-mêmes leurs cryptos. La question de Vincent est très pertinente.
Alors effectivement, la question est pertinente et pour différentes raisons, on a envie d'utiliser un hardware wallet et de gérer ses cryptos de manière sécurisée. Donc un premier aspect, ça va être effectivement l'aspect de sécurité. Quand on utilise un hardware wallet, on possède complètement ses clés et elles sont sécurisées dans cette technologie qui est la même technologie que les cartes bancaires et les passeports. La différence est que à l'intérieur, c'est le secret de l'utilisateur et non les secrets de l'État ou de la banque. Donc on est capable de vraiment posséder et de sécuriser ces cryptos et ces bitcoins. Et typiquement, si on regarde ce qui s'est passé dans le passé pour certains exchanges, il y a eu au moins le cas de FTX qui avait, disons, utilisé le fonds des utilisateurs pour trader et les perdre en partie. Et donc ça, c'est un exemple particulier que les exchanges peuvent... donc il y a une vraie partie de confiance dans le fait de laisser ses cryptos à l'exchange. Et si jamais ils utilisent mal les cryptos des utilisateurs, ça peut mal tourner. Il y a aussi des exchanges qui se font hacker régulièrement. L'année dernière, il y a eu l'exemple de Bybit qui a perdu plus de 1,4 milliard de dollars. Et enfin, le deuxième aspect qui est important, c'est que lorsqu'on possède ces cryptos, on va pouvoir les utiliser sur des différentes applications décentralisées dans lesquelles on va pouvoir swapper, ou on va pouvoir avoir du yield avec des protocoles de lending, ou par exemple, on va pouvoir les poser en collatéral pour pouvoir acheter autre chose avec des stable coin. Il y a aussi aujourd'hui de plus en plus de protocoles qui permettent d'acheter des actions on-chain. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut faire, on peut les acheter en 24/7, sans, avec des fees qui sont très basses. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages à posséder vraiment ces cryptos.
On parle souvent de cette, de finalement de la safe custody dans cette émission question-réponse avec Morgane. L'un des finalement des arguments contre détenir soi-même ces cryptos, c'est justement la responsabilité, c'est la peur de perdre sa clé, c'est la peur de mal faire dans le protocole. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il faut se connaître en tant qu'investisseur. Si on a peur de perdre ses clés, si sur 20 ans, on a peur de perdre le device, ça s'entend aussi.
Bon, ça peut s'entendre, effectivement. En fait, j'ai l'impression que la peur, elle vient beaucoup du fait de l'inconnu. Et les choses qu'on ne connaît pas, on a tendance à s'imaginer des complexités, etc. En fait, c'est pas très compliqué d'utiliser des cryptos et de vraiment les posséder. Il faut juste faire le pas. En fait, après, une fois qu'on a fait le pas et qu'on comprend comment ça fonctionne, on peut décider lequel des deux est le mieux et si la peur était justifiée. Mais très souvent, cette peur, elle vient vraiment d'une méconnaissance et en fait, juste de la peur de l'inconnu. Quoi.
Essayez, effectivement, c'est un bon argument. Essayez et vous choisirez juste après. David vous demande, Morgane, est-ce que le YEM a une valeur marchande aujourd'hui, notamment en Afrique?
Alors, je ne connaissais pas du tout cette crypto, donc j'ai dû faire quelques recherches. Alors, il y a eu quelques red flags quand même qui sont arrivés rapidement. Je préfère être transparente. J'ai décidé quand même de faire mes propres recherches pour vous donner un avis en partant de mon expérience. En fait, on se rend compte très rapidement que cette crypto, elle n'est pas listée sur les exchanges. Aucun. Donc encore moins Binance, Coinbase, les plus grands. Ensuite, on se rend compte qu'il y a une fondation qui est derrière qui s'appelle la YEM Foundation. Et quand on va sur ce site, alors ils nous vantent les mérites, on va dire, de cette crypto, qu'elle est très utilisée, notamment effectivement en Afrique, qu'il y a vraiment une mission comme un outil de liberté. Et en fait, quelque part, on vous vend des webinaires pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette crypto. Mais quand on fait des recherches un peu plus pointues, et moi j'invite toujours les personnes à regarder quelle est l'équipe qui est derrière ce projet. Et derrière la YEM Foundation, en fait, vous avez un conseil d'administration sur le site. Donc, il y a 5-6 personnes. Et quand vous cliquez, les liens sont morts. On n'a pas d'accès aux personnes. On n'a pas leur biographie. On n'a pas accès à leurs liens officiels. J'ai recherché les deux premières qui sont situées en Allemagne. Je les ai retrouvées sur LinkedIn. Et ce sont un petit peu des comptes LinkedIn fantômes. Aucun poste, très peu de connexions. Donc, de manière générale, là, ça me devient déjà très suspect, en tout cas pour moi. Et ensuite, ils nous disent que c'est un outil de paiement qui est de plus en plus globalisé. Vous allez sur YEMPay, donc c'est une plateforme qu'ils ont créée. À aucun moment on nous explique qu'est-ce qu'on peut acheter avec cette crypto en particulier. Donc de manière générale, vraiment moi je dirais qu'il faut être extrêmement prudent. Je pense qu'en fait c'est bien de revenir un peu à la jeunesse de cet écosystème. Et si vous intéressez à un projet comme ça, peut-être que ça a du sens de plutôt s'intéresser à Bitcoin, de comprendre pourquoi Bitcoin est né, quelle était la mission. Et vous allez tout de suite vous rendre compte que ce genre de projet, malheureusement, ce ne sont pas des outils de liberté.
Et on a souvent la question, je me rappelle plusieurs fois dans l'année, quelle crypto fois 1000 ou fois 100 dans l'année, on sait qu'il faut faire très attention aux projets extrêmement prometteurs. Ça n'existe plus ce qui s'est passé a priori avec Bitcoin. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles?
Oui, en fait, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai, simplement. Bon, pour les gens qui veulent investir, je pense qu'un bon réflexe, c'est d'abord d'investir sur les crypto-monnaies qui sont les plus connues, les plus solides.
Oui.
Peut-être mettre 80% sur Bitcoin, 10% sur Ethereum, et le reste, si vraiment on a envie de s'amuser et tester des choses, pourquoi pas. Mais en tout cas, le passé nous a montré qu'il y avait surtout Bitcoin qui était résilient, les autres cryptos beaucoup moins.
Bon voilà, en tout cas, la réponse pour le YEM. Hein. On n'est pas persuadé, effectivement, qu'il faut y aller. Une question de Léo sur l'informatique quantique, et c'est souvent qu'on nous en parle dans l'émission. L'informatique quantique va-t-elle rendre Bitcoin vulnérable, Charles?
Alors ça, c'est une question qu'on a régulièrement. Et en fait, ce qu'on peut expliquer, c'est que effectivement, il y a de la recherche pour fabriquer un ordinateur quantique. Donc, il faut bien se dire qu'un ordinateur quantique, c'est pas un ordinateur classique beaucoup plus rapide. C'est un ordinateur qui est très différent et qui va permettre seulement de résoudre quelques types de problèmes. Et globalement, trois grands types de problèmes. Tous les problèmes liés à la physique, à la chimie, typiquement pour rechercher des molécules, pour faire des médicaments, c'est efficace. Et ça peut aussi casser la cryptographie. Donc c'est pour ça qu'on en parle régulièrement. Et en fait, ça peut casser la cryptographie, toutes les cryptographies, celle de Bitcoin utilisée par Bitcoin, oui, mais aussi toutes les cryptographies qui sont utilisées dans les télécommunications, dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de la défense, dans le système bancaire, lorsqu'on paye avec sa carte bleue, il y a de la cryptographie partout. La question est de savoir quand est-ce qu'on va être capable de fabriquer cet ordinateur quantique. La réponse, on la connaît pas en fait. Moi, ça fait 25 ans que j'entends qu'on va en avoir un dans les 5 ans qui viennent. Je suis un petit peu taquin, mais en fait, on ne sait pas vraiment quand on va avoir un ordinateur quantique qui est capable de casser de la cryptographie. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la recherche dans ce domaine-là, elle est de plus en plus capitalisée et elle augmente. On voit qu'il y a des progrès qui sont assez notables récemment. Il y a des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution contre ces ordinateurs quantiques qui s'appelle post-quantum cryptography. C'est de la cryptographie post-quantique qui va résister à ces ordinateurs quantiques. Et donc maintenant, la question, c'est juste de faire la migration, organiser cette migration vers la cryptographie post-quantique. Et là, c'est surtout une question d'organisation. En fait, il s'agit de se mettre d'accord sur quels algorithmes on va utiliser. Donc, ils ont été standardisés par l'UNIST, National Institute of Standards and Technology. C'est un organisme américain qui standardise la technologie et notamment la cryptographie. Et donc, a défini une liste d'algorithmes qu'on peut utiliser et qui sont résistants aux ordinateurs quantiques. Et maintenant, il s'agit de se mettre d'accord sur se coordonner sur quand et comment. À la fois dans le monde de l'IT normal, avec la finance, la défense, les télécommunications, le secteur de la santé. Donc là, il y en a vraiment partout et ça va prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de coordination. Et c'est une migration qu'il faut commencer dès maintenant parce qu'il faut être prêt pour 2030. Donc,
2030, c'est demain.
Hein. Dans ce genre de cas, oui. Il faut migrer toute la cryptographie d'ici 2030. Et effectivement, là, vraiment, c'est demain. Et dans la question des blockchains, donc il n'y a pas de standards pour les blockchains, donc on pourrait se dire qu'on attend plus, mais en pratique les blockchains, elles sont déjà en train de travailler à créer cette migration et la question, c'est plutôt de trouver le consensus social, parce qu'il n'y a pas d'entité centralisée qui dit bon, Bitcoin va migrer en 2028, on va utiliser tel algorithme, les gens qui migrent pas, on va leur bloquer leur Bitcoin, enfin il y a tout un tas, toute une organisation à se mettre, sur laquelle il faut se mettre d'accord, et qu'il faut définir et créer la roadmap liée à ça. Et la difficulté pour les blockchains, c'est vraiment de se mettre d'accord globalement, collectivement, sans qu'il y ait une autorité centrale qui décide. Donc c'est déjà en cours, les gens y travaillent, on participe Ledger aux discussions pour Bitcoin, pour Ethereum et pour d'autres blockchains, pour influencer le choix vers celui qui nous paraît le plus pertinent, et ça va se faire tranquillement et progressivement. À Ledger aussi, on travaille sur ces sujets-là, on utilise de la cryptographie évidemment pour signer sur Bitcoin. Donc tant que Bitcoin n'a pas migré, nous on va pas changer la cryptographie puisque ça ne marcherait plus évidemment. Mais on utilise aussi de la cryptographie pour nos propres usages, pour s'assurer que nos devices ont pas été tampered, pour assurer qu'ils sont genuines, etc. Et cette cryptographie, on est en train de la migrer en interne. Donc Ledger sera prêt bien avant Bitcoin.
C'est un gros dossier sur lequel vous travaillez. Hein. Vous allez pas laisser ça au hasard évidemment.
C'est un vrai sujet qui nous occupe tous les jours. Ouais.
Une question de Vincent qui souhaiterait obtenir votre avis, Morgane, sur la crédibilité et la fiabilité de la plateforme Nexo. De plus, comment cette plateforme est-elle capable de fournir des taux d'intérêt si élevés comparés à ses concurrents?
Tout à fait. Alors, la plateforme Nexo, elle permet de faire deux choses. Si j'ai des crypto-actifs, je peux les déposer sur la plateforme, les mettre en garantie, et la plateforme va me donner de la liquidité, c'est-à-dire eh bien de la monnaie fiduciaire. Je peux aussi faire l'inverse. Je peux devenir emprunteur. Donc, c'est-à-dire que prêteur. Je vais déposer mes crypto-actifs et je vais générer du rendement. Donc, en fait, Nexo, c'est les deux options qu'il vous offre aujourd'hui. Quand on va sur le site de Nexo aujourd'hui, on voit qu'il propose jusqu'à 13% sur plus d'une trentaine de crypto, dont notamment XRP. Comment est-ce que Nexo va générer ses rendements? Eh bien, en fait, ils vont prendre vos crypto-actifs et ils vont les prêter à des emprunteurs institutionnels et de détail, et ils vont exiger une surgarantie. Et en fait, comment Nexo se paye, c'est le spread. C'est la différence entre ce qu'ils vont pouvoir générer en donnant en emprunt vos cryptos et les intérêts qu'ils vont vous donner. Donc, à mon avis, ils ont une marge sur laquelle ils peuvent jouer, ce qui leur permet parfois d'être plus attirants, on va dire, que leurs concurrents. D'un point de vue de la légitimité de cette plateforme, elle existe depuis 2018. Il n'y a jamais eu de grand hack. Il n'y a jamais eu aussi d'impossibilité de retirer ses fonds. Et ça, c'est important. Par contre, les désavantages, eh bien, ça va être qu'on est dans la CeFi. On est dans la finance centralisée. Vous allez faire confiance à une entité qui est Nexo. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise gestion, s'il y a un problème à un moment donné, malheureusement, il peut y avoir un problème avec vos fonds. Donc de manière générale, on ne met pas 100% de son portefeuille sur ce type de solution-là. Et surtout, on réalise, et ça c'est pour tous les projets, quand on vous donne plus de rendement, eh bien en fait vous prenez plus de risques.
C'est un petit peu la leçon que vous nous donnez à chaque fois, Morgane. Il y a à la fois, est-ce qu'on peut faire confiance à certaines cryptos, à certaines plateformes, mais il y a aussi sa propre attitude hein, vis-à-vis de l'investissement, connaître, se renseigner, lisez des bouquins, faites des formations. Franchement, ça vaut le coup parce que là, on se lance pas là-dedans au hasard. Merci à tous les deux d'avoir répondu à ces questions-réponses dans le club BFM Crypto. Merci Charles Guimet de nous avoir reçus au siège de Ledger à Paris. C'était un lieu absolument spectaculaire, on peut le dire. Hein.
C'était avec plaisir et on est ravis de travailler tous les jours ici.
Merci beaucoup Charles Guimet, CTO chez Ledger, et Morgane Enlandu, fondatrice de Crypto 360. On se retrouve évidemment toutes les semaines, Morgane. Et je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.